Cinéma. Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, John Carpenter. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. John Carpenter, donc, parfois qualifié de Big John, il est plutôt spécialiste d'horreur et de science-fiction. Si on essaie de séparer les science-fiction et les autres, finalement, c'est quasiment toujours la science-fiction et l'horreur. À un moment donné, je me disais, on peut peut-être opposer science-fiction-horreur aux autres films qu'il a tournés. En réalité, non. Alors, on peut dire que c'est un cinéaste devenu classique. Pourquoi classique ? Parce qu'il a, comme certains auteurs, certains réalisateurs des années 40-50, il a été considéré d'abord comme une sorte de petit maître. Ça veut dire que certains réalisateurs sont des réalisateurs de série B. Et on peut comparer avec William Friedkin, qui avait fait French Connection, et d'autres films peut-être moins célèbres. Donc, un cinéaste qui est reconnu petit à petit, c'est-à-dire que certains films sont devenus des films cultes, il a été influencé, dit-il, par Howard Hawks, qui a notamment réalisé ce que Quentin Tarantino considère comme le meilleur western, c'est-à-dire Rio Bravo. Il y a aussi un peu d'Alfred Hitchcock avec le suspense et dans la mesure aussi où il fait des apparitions dans certains de ses films. Et ces films, même si ce ne sont pas des westerns, il n'a jamais tourné un western, sont quand même dans le genre western, souvent avec un héros solitaire, etc., etc. Alors il y a aussi de sa part une fidélité à certains acteurs, en particulier Kurt Russell, qui a tourné 4 fois avec lui, et Jamie Lee Curtis, 4 fois aussi, qui est devenu célèbre à cause de Halloween. On pourrait dire Halloween 1, sauf que les films 1, on dit Halloween simplement, ou Le Parrain simplement. Donc ce film a révélé cette actrice, mais a aussi marqué les esprits, parce que c'est vraiment le premier film de Carpenter qui a un succès et qui va marquer fortement le milieu du cinéma, les critiques, les journalistes et le public. Alors il travaille parfois et même régulièrement avec des petits budgets, donc un petit budget implique une maîtrise très importante du tournage, un tournage rapide et aussi un travail de caméra qui est préparé et qui demeure extrêmement important et surtout un travail de montage. Il faut savoir que le montage, c'est l'étape essentielle du film. Certains considèrent que le film se fait au montage avec une analyse, avec un découpage qui, à ce moment-là, donne le véritable film. Sur le montage d'ailleurs, il y a des évolutions, c'est-à-dire que dans le cadre du système hollywoodien des années 30 ou 60, c'était les producteurs qui avaient un montage, qui imposaient un montage, alors que depuis, des réalisateurs vont eux-mêmes opérer un montage et donc rendre leur travail tout à fait accessible et tout à fait visible avec une originalité reconnue. Donc, pas mal de points particulièrement nouveaux. Un élément aussi, c'est la musique. La musique, c'est rare que des réalisateurs fassent aussi la musique. En effet, on laisse à un musicien le travail sur ce point. Il y a des couples musicaux et réalisateurs, comme Sergio Leone et Ennio Morricone, et divers autres qui sont toujours ensemble. On pourrait citer aussi Nino Rota, Fellini, etc. Bon, il y en a pas mal. Pour Carpenter, il fait comme Chaplin ou Eastwood, qui sont des originalités. Il fait la musique. Il travaille sur un synthétiseur et il met en place le thème des génériques, le thème des scènes d'action. Et il aura même un travail de musicien avec des albums qui seront tournés, qui feront des tournées, donc 3 albums avec lesquels il va se manifester en tant que musicien simplement et pas réalisateur. Mais le travail de la musique chez un réalisateur, c'est extrêmement rare. On va écouter cette musique réussie notamment dans Halloween. Il y aura des adaptations de ces films, ce qui montre leur importance, à travers par exemple des jeux vidéo. Donc les références aux films de Carpenter existent aussi en dehors des jeux vidéo chez certains réalisateurs. Par exemple, Quentin Tarantino a une admiration pour Carpenter, comme il a aussi une admiration pour les cinémas asiatiques des années 70, et il va, dans son film Les 8 salopards, faire tourner Kurt Russell, qui est un hommage en quelque sorte à John Carpenter, parce que c'est son acteur, et il occupe une position ambiguë, comme dans d'autres films. D'ailleurs, Kurt Russell, c'est le symbole du héros solitaire. Le héros de Carpenter, il est toujours solitaire, rétif à l'autorité, désabusé, parfois cynique. Et le symbole de ça, c'est Snake Plissken. Il s'agit du nom, Snake Plissken, de Kurt Russell, dans les films qui sont relatifs à la science-fiction directement, c'est-à-dire New York 1997, tourné en 81, et ensuite le pendant qui est Los Angeles 2013, tourné en 1996. Donc là, héros est vraiment une sorte de délinquant, mais récupéré par l'autorité, mais qui s'oppose à celle-ci. Donc, type western, on peut dire, ce héros. Alors, la marque aussi d'un grand réalisateur, ce sont les articles, les ouvrages qui lui sont consacrés, aux États-Unis, mais aussi en France. Alors là, on trouve une attitude des critiques français qui se rapproche de celle qui a été appliquée à Woody Allen ou à d'autres réalisateurs au départ. Les Français, les critiques français vont admirer John Carpenter, alors même qu'aux États-Unis, il n'a pas une importance aussi grande. Donc là où les critiques français reprennent autrefois des petits maîtres la série B, là John Carpenter va petit à petit être considéré comme l'auteur de films cultes, notamment New York 1997. Donc cette position particulière de John Carpenter va bien évidemment se traduire dans un certain nombre de films, et le plus simple ce serait d'analyser ces films. Alors j'ai considérer que l'ordre chronologique finalement était le plus intéressant pour voir le développement de sa carrière. Alors, il fait une école de cinéma et il va commencer à élaborer un scénario avec un autre auteur qui s'appelle Dan O'Bannon, Ça donnera le film Dark Star de 1974. Il avait, comme certains réalisateurs le font, mis en place une sorte de film de fin d'études qui est un court-métrage, et puis il va étendre à un film traditionnel qui sera donc Dark Star. Alors le sujet de Dark Star, c'est le fait qu'un vaisseau sera endommagé alors même que lui doit détruire des planètes potentiellement dangereuses. Donc cette équipe à l'intérieur de cette station, de ce vaisseau, va apparaître un petit peu comme celle de Alien. C'est-à-dire, ce n'est pas une science-fiction où tout marche comme dans la Guerre des Étoiles, etc. C'est une science-fiction où les héros se trouvent face à des difficultés dans leur vaisseau. Je parlais de Alien. Effectivement, ce film est un précurseur d'Alien. L'explication est toute simple. Dan O'Bannon, le co-scénariste de Carpenter, sera le co-scénariste d'Alien. Donc forcément, il y a à l'évidence une parenté. Donc, premier film qui est parfois un petit peu maladroit, qui est quand même intéressant. Alors là où il va véritablement se faire remarquer, c'est avec son second film qui s'appelle Assaut, qui a été tourné en 1976. Alors Assaut, c'est de manière très revendiquée une adaptation de Rio Bravo dans le monde moderne. On a un poste de police dans lequel des policiers vont garder un prisonnier qui est un criminel assez connu. Or, un gang va agresser le commissariat, le poste de police, et il faut, à l'intérieur du poste, se défendre et serrer les coudes, en quelque sorte, pour tenir tout au long de cette nuit de violence. Donc, violence, force, face à la délinquance, encore une fois, Rio Bravo a inspiré le réalisateur. Alors là où John Carpenter va atteindre le public et la critique à la fois, mais surtout le succès public, c'est Halloween, la nuit des masques de 1978. Donc là, c'est le prototype du film d'horreur. Il y aura tout un tas de suites à Halloween. Le seul film ou le seul groupe de films qui est équivalent, c'est Vendredi 13. Effectivement, Vendredi 13, il y a des suites nombreuses. Eh bien, Halloween aussi, il y aura des suites nombreuses. Mais John Carpenter ne les tournera pas. Il n'acceptera pas de reprendre le sujet. Donc, quel est le thème de Halloween? C'est un thème devenu classique où on se prépare à la nuit d'Halloween et une jeune femme, donc, qui est jouée par Jamie Lee Curtis, ça fera d'elle déjà une vedette assez jeune, fait du babysitting. Or, il y a au milieu de cette veille un docteur qui vient en ville pour prévenir du retour d'un homme qui s'est échappé d'un asile. Or, cet homme avait assassiné sa sœur et il était à ce moment-là un enfant et il est devenu un homme et il va prolonger ses meurtres et se lancer donc notamment à la poursuite de Jamie Lee Curtis. La nature d'Halloween, film donc fantastique, a véritablement marqué les esprits. C'est une novation, c'est une originalité qui sera effectivement, comme je l'ai souligné, reprise par la suite à de nombreuses reprises. Alors, il faut s'arrêter sur une autre œuvre, mais un téléfilm. Alors, il faut savoir que Carpenter a tourné, comme beaucoup d'autres réalisateurs, des films et des téléfilms. Je n'ai pas voulu étudier la série des téléfilms, les films suffisent en eux-mêmes, mais il tourne en 1979 le roman d'Elvis, donc sur Elvis Presley. Et celui qui tient le rôle d'Elvis, c'est Kurt Russell. Kurt Russell qui va pour la première fois travailler avec lui. Donc, le film revient sur la carrière de Elvis et il va revivre les moments importants de sa carrière et être dans une position un petit peu désenchantée face à ce succès qu'il a en quelque sorte usé ou abîmé. Donc, un téléfilm que j'évoque uniquement parce que Kurt Russell apparaît. Et Kurt Russell, c'est vraiment la vedette qui est symbolique de Carpenter. Alors, on a là un film par la suite qui aura aussi du succès, c'est Fog. Fog tourné en 1981. Alors, que se passe-t-il dans Fog? Il s'agit d'une ville qui va fêter le centenaire de sa création. Bon. Sauf que des événements vont se produire et on voit un équipage de marins disparaître. Et ensuite, fog, c'est le brouillard qui s'avance. Et avec le brouillard, vont monter les marins qui sont morts et qui sont morts à cause du village qui les a trompés sur la manière dont la mer se terminait, parce qu'ils vont les attirer avec un feu à un endroit où ils vont se percuter sur les côtes. Donc le brouillard cache ces hommes, ces marins, et petit à petit, ils avancent, et beaucoup de personnes se trouvent dans une position enfermée. C'est classique chez Carpenter et dans les films d'horreur en particulier, c'est la situation d'une personne qui est enfermée et qui ne peut pas arriver à se débrouiller ou à s'en sortir. Donc Fog, un succès public et un succès aussi critique. Et par la suite, donc, on va retrouver Kurt Russell dans d'autres films qui seront aussi importants. New York 1997, pour la première fois le personnage de Stack Plissken. C'est un individu qui a été un militaire, puis qui est devenu en dehors de la loi, et on va le récupérer pour une mission quasiment suicide. En effet, l'avion présidentiel Air Force One a été détourné et on l'a emmené sur ce qui est une prison. Alors cette prison, c'est Manhattan. Manhattan, donc, qui a été transformé, on peut dire, en prison à ciel ouvert. Et donc, Snake Pilsen va être chargé d'aller voir le président et de récupérer une cassette qui a une importance et qui comprend certaines informations que les prisonniers ne doivent pas trouver. Donc, vraiment, là, c'est le cowboy solitaire qui va débarquer sur l'endroit le plus dangereux au milieu des prisonniers et qui va affronter un certain nombre d'épreuves avant d'arriver à s'en sortir. Donc, le personnage, c'est le personnage presque caricatural de Carpenter, le héros isolé. Et effectivement, je disais tout à l'heure, cynique, puisqu'il répond aux autorités. Il est dans une position de force par rapport à elle, donc il abuse un petit peu de cette force. Mais on va aussi lui injecter une puce qui permettra de le tuer s'il désobéit dans la mission ou s'il arrive trop tard. Donc, avec tous ces éléments, Pilsen fonce dans Manhattan et va affronter un certain nombre d'épreuves. Bon, peu importe, je ne vais pas détailler. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive à retrouver le président et il arrive surtout, pour les autorités qui l'ont envoyé, c'est le plus important, à récupérer cette cassette. Sauf qu'à la fin, il s'amuse, entre guillemets, à écarter cette cassette et la remplacer par une autre, substituer une autre. Et donc, quand les autorités croient écouter la cassette, finalement, c'est une musique qu'ils entendent. Ça symbolise, là encore, l'opposition du héros Carpenter, du héros de Carpenter, à l'autorité. Donc, film important qui aura une suite. Alors, succès de ce film, et aussi, par la suite, reconnaissance de film qui deviendra presque culte, de The Thing. Alors, The Thing, c'est un film qui a été tourné au départ, notamment par Howard Hawks et aussi Christian Nibby, qui est admiré, je l'ai dit, par John Carpenter. Donc The Thing, c'est une intrigue qui se passe dans l'Antarctique. On a une station qui est installée et quand de nouvelles personnes arrivent dans la station, ils trouvent un carnage. Alors ce carnage, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il a opéré. Et puis finalement, c'est The Thing, la chose. Un être donc qui a pour particularité d'intégrer le corps d'une personne et à partir de là d'attaquer d'autres personnes et de les tuer. Donc tout le principe du film, c'est de dire qui est qui. Est-ce que telle personne est dangereuse? Est-ce que c'est elle qui est la chose ou est-ce que ce n'est pas elle? Le fait que la chose va aussi parfois se loger dans un animal comme un chien. Donc The Thing, lieu fermé, inquiétude, suspicion, c'est vraiment le monde de Carpenter, c'est la logique de ces films d'horreur où l'on est, encore une fois, localisé à un endroit donné et tout est en danger, on avance, il y a tel ou tel couloir ou tel placard qui devient dangereux. Donc, The Thing. Alors ensuite, il y a un film qui échappe, quant à lui, à la mise en place d'un lieu isolé. C'est Christine, qui est tourné en 1983. Christine, en fait, c'est une voiture. Alors, cette voiture est découverte par un jeune homme qui est très timide, qui est en recul, qui a un petit peu peur des autres. Et il va être martyrisé, peut-être le mot est trop fort, par des élèves de son lycée qui le prennent en grippe. Et il va trouver par hasard cette voiture. Cette voiture, donc, qu'il va essayer de reprendre, de conduire. Or, quand il conduit, il va y avoir des meurtres. Il va y avoir des personnes qui sont renversées par cette voiture, qui sont tuées. La question étant, est-ce qu'il y a dans la voiture Christine un conducteur ou pas? Quoi qu'il en soit, il est certain que le héros va changer. Il devient là aussi plus violent, plus dominateur. Et je ne dis pas que c'est le héros classique comme Snake Pilsen qui apparaît, mais c'est un changement d'attitude. Donc la voiture qui est meurtrière, voilà ce qu'est Christine. Alors un film moins connu de Carpenter, c'est Starman. Alors Starman, c'est un extraterrestre qui va débarquer sur Terre. Son vaisseau va effectivement échoué sur Terre, et il va aller dans une maison où il va utiliser une apparence, c'est-à-dire que face à une femme, il va prendre l'apparence de son mari qui est décédé. Alors, est-ce que la femme va l'aider? Est-ce qu'elle ne va pas l'aider? Les autorités courent après l'extraterrestre, elles ne veulent pas de lui, et au contraire, elles voudraient connaître les secrets de sa planète. Donc, difficile de supporter l'ensemble des contraintes. C'est donc Starman, qui est un film beaucoup moins connu. Alors ensuite, il y a un film extrêmement original, de 1986, qui s'appelle « Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin ». C'est tout un programme dans le titre. Alors ici, le film de Carpenter est une sorte de métissage entre les films martiaux et les westerns, le dessin animé parodique, le fantastique, c'est totalement original. C'est-à-dire que Jack Burton va se trouver transporté dans un monde parallèle avec une guerre entre deux clans asiatiques. Et là, il doit affronter un sorcier qui est bien sûr extrêmement dangereux et il va essayer de triompher. Donc l'originalité de ce film, c'est que là, l'introduction dans un monde parallèle est vraiment une particularité. C'est-à-dire que le film, par son originalité, là encore, a intéressé les critiques français, mais n'a pas été apprécié par les Américains. Donc, cette difficulté, toujours, de Carpenter à s'imposer chez lui et une facilité à s'imposer dans le cinéma reçu par les Français. Ensuite, un titre très parlant, « Prince des ténèbres » en 1987. On est dans les sous-sols d'une église abandonnée. Il y a une sorte de cercueil contenant quelque chose. Alors, qu'est-ce que ce quelque chose? Mais en fait, on ne sait pas si c'est Satan, le fils de Satan. En tout cas, c'est un mal qui apparaît et qui peut dévorer le monde et le supprimer. Donc, l'affrontement ici se situe dans ce lieu. Et il faut éliminer cette image de Satan, cette image du mal. Donc le rôle des personnages principaux, c'est de lutter et de triompher. Alors, autre film particulièrement original, Invasion Los Angeles en 1988. Un personnage vit tout à fait normalement, supporte l'existence, et puis tout d'un coup, grâce à quelqu'un, il va mettre des lunettes. Et ces lunettes vont lui montrer que le monde est contrôlé par des extraterrestres. En réalité, quand on n'a pas les lunettes, on voit un monde qui fonctionne normalement, avec des messages subliminaux à travers divers médias. Et le rôle de ce héros sera effectivement de lutter contre cette technologie, de lutter contre ces extraterrestres. Il va les combattre avec quelques personnages. Donc, un certain nombre de films, toujours originaux, et qui frappent avec cette musique, toujours originale, parfois de Carpenter. Thank you. Je passerai plus vite sur certains films qui sont des remakes ou qui ont déjà été adaptés. Ainsi, en 1982, il y a Les Aventures d'un homme invisible, dont le thème classique de cet analyste qui va tout d'un coup renverser une tasse à café et tout d'un coup, ça va l'entraîner une sorte de réaction après laquelle il va devenir invisible. Donc, il est poursuivi parce que certains responsables administratifs veulent récupérer cette clé pour devenir invisible. Et donc, c'est toujours la fuite qui apparaît. Autre remake, ce sera en 1995, c'est Le Village des Damnés. Alors, Le Village des Damnés, il a déjà été tourné et c'était en 1960. On voit apparaître une sorte, alors je dirais, de forme de, au-dessus d'un village. Et au bout de quelques mois, vont naître des enfants. Et des enfants qui sont tous avec des cheveux blonds platine, un visage très proche. Ils vont manifester petit à petit une hostilité vis-à-vis des humains. Et là encore, il va falloir essayer de lutter contre eux. Donc, remake ici. Il y a eu aussi entre-temps L'Antre de la Folie, en 1994. Originalité là aussi, un détective est chargé de retrouver un écrivain et son manuscrit. Et il va se retrouver à un endroit où l'écrivain doit habiter. Pourtant, tout va déraper, il y a des monstres, il y a des hallucinations. Donc tout est un petit peu étrange. Alors arrêtons-nous sur Los Angeles 2013, qui est tourné en 1996. Snake Plissken est là encore, et il va aller à Los Angeles. Ou plus exactement, il va aller à un endroit, parce que Los Angeles a été détaché du continent américain, et on a toujours la même situation, sauf que ici c'est la fille du président qui a été, entre guillemets, récupéré, qui est aux mains des personnages qui sont dans cette contrée. Donc, toujours pareil, la nécessité pour le héros de se débrouiller et d'arriver à ses fins à récupérer la fille du président. Alors, autre classique, Vampire, en 1988. Alors, l'originalité, c'est que ce sont des hommes qui sont payés par le Vatican pour lutter contre les vampires et les éliminer. Donc, confronté à des vampires, toujours pareil, ils essaient de les repousser. Ces vampires qui ont comme originalité de ne plus avoir peur d'un crucifix, par exemple. Donc, c'est un danger pour les individus. Alors, on arrive à Ghost of Mars en 2001, où Mars a été colonisé par l'humanité. Et on a là encore un criminel qu'il faut récupérer, etc. etc. Et on voit une transformation des personnages, on ne sait pas trop pour quelle cause. Alors le dernier film, ce sera The Ward, l'hôpital de la terreur, en 2011. Alors il faut noter qu'effectivement, il y a une dizaine d'années entre Ghost of Mars et The Ward, et ensuite, ce sera le dernier film de Carpenter, et il y aura une absence de tournage, il ne tournera plus, et avec l'avancée en âge, on pense aujourd'hui qu'il ne va pas tourner. On ne sait jamais, mais enfin bon. Alors l'hôpital de la terreur, c'est en fait une femme qui se retrouve dans un hôpital psy face à d'autres femmes. Et il y a un fantôme qui apparaît. On cherche qui est ce fantôme, en réalité qui a été tué par les patientes, et donc qui ressurgit et qui va tenter de les éliminer. Donc voilà ce qu'on peut dire sur John Carpenter, encore une fois un réalisateur dont certains de ses films sont cultes et qui a quand même une originalité. C'est ce qui explique pourquoi je tenais à l'évoquer aujourd'hui. C'était Cinéma Cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique Tiphaine Lemaine. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à toutes et à tous.